Bonjour bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, n'est-ce pas? Et je crois que le nom de Jésus, prions Dieu, te bénissons notre Dieu. Ton nom est grand et ce nom fait des merveilles dans les vies. Ton nom a fait de nous ce que nous sommes. Nous qui étions perdus, direction la perdition éternelle, tu nous as rattrapés, tu nous as déroutés et tu nous as mis sur la bonne voie. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci Seigneur, notre Dieu, pour la résurrection qui est source de notre résurrection à nous. Et c'est vrai que nous étions morts, mais nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Et nous te bénissons. Amen. Je vous invite ce matin à méditer une fois de plus la parole de Dieu, que nous puissions être enrichis. Je commencerai par un psaume que j'ai partagé avec quelques-uns d'entre vous. Et ce psaume va nous permettre d'asseoir la sérénité, mais surtout la confiance que nous allons mettre dans la parole qui va suivre par la suite. Le psaume 119, que plusieurs connaissent bien, n'est-ce pas? C'est le chapitre le plus long de la Bible. C'est le plus long psaume. Et la particularité de ce psaume, c'est qu'il ne parle que de la parole de Dieu, du début à la fin, sous différentes facettes. Où cherche-t-on la vérité? Ça dépend des époques. Dans notre monde postmoderne, la vérité est dans le savoir humain, dans notre capacité à être des hommes rationnels, qui avons conquis l'espace et qui continuons du reste de l'explorer. Encore hier tard, le soir, je regardais une émission passionnante sur la 7. Un groupe de chercheurs qui se sont donnés pour mission de pénétrer tous les mystères des requins. Incroyable. Des risques au risque de leur vie, en plein banc de requins. Mais grâce à eux, aujourd'hui, on a une donnée impressionnante sur la vie des requins. Notre monde est en recherche de comprendre l'environnement qui l'entoure. Et donc, pour certains, la vérité est dans la nature, dans les lois qu'on découvre dans la nature. Par contre, la vraie question, c'est qui a posé ces lois? Et là, les avis divergent. Pour les juridiques de notre temps, ces lois ont été posées, on ne sait par qui. Ces principes sont là. Certains expliquent que ces principes ont évolué, sont arrivés à un moment donné, d'où la théorie de l'évolution. Mais par contre, comme je dis souvent, il faut savoir que même sur cette théorie, il n'y a pas l'unanimité. Où cherche-t-on la vérité? Dans notre tête, dans notre capacité à être rationnel, dans la nature qui nous entoure, tout sauf en Dieu. La vérité de Dieu est une vérité parcellaire, c'est une vérité religieuse, c'est une vérité éthique, c'est une vérité morale. Mais elle ne peut pas s'imposer à tout le monde comme la vérité. Et pourtant, le psaume 119 nous dit tout le contraire. Le psaume 119 commence en disant « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et su dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors je n'aurai pas honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai étudié tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances, ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu as tracées. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur, écoute-moi de vivre, accorde-moi du moins de vivre, j'obéirai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes ordres font tout mon plaisir, ils sont mes merveilleux conseillers. Et on pouvait continuer comme ça. Ce psaume, il parle de la parole sous toutes ses coutures. Qu'est-ce qu'il établit, ce psaume? Il établit que finalement, la vérité est dans la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité, avec un grand V. Peu importe ce que les siècles, ce que les époques, ce que les humains ont dit, elle est la vérité. Certains disent, oui, mais elle ne dit pas tout. Par exemple, elle ne parle pas des ordinateurs, des intelligences artificielles. Elle ne parle pas de toute l'évolution qu'il va avoir dans quoi? Dans 100 ans, dans 10 siècles, dans 20 siècles. Certes. Mais elle parle de ce qui fait la base de l'humanité. Que vaut tous les ordinateurs si les hommes ne s'aiment pas entre eux? Que vaut toute l'intelligence humaine si ce n'est que chaos et guerre? Les richesses des nations entraînent les nations dans les guerres et dans les conflits. Donc en vérité, la base la plus solide de la vérité, elle est là dans l'Écriture. Elle parle de tout, même si on a l'impression qu'elle ne parle pas de certains détails. Elle aborde tout ce qui concerne l'être humain dans sa relation à Dieu et dans son évolution jusqu'au retour du Seigneur. Ceci étant dit, étant donné quelle est la vérité, écoutons maintenant cette vérité que Jésus va nous dire. Une vérité qui parfois déconcerte, où on a l'impression que Jésus ne connaît pas nos réalités. Parce que dire ça, franchement, il aurait fallu qu'il soit comme nous. Et pourtant, il a été comme nous. Il était comme nous. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Comme je le disais, dans un monde qui a traversé, qui n'était même pas sorti d'une crise économique, nous avons connu tout ce que nous avons connu ces deux dernières années. Et à la fin de l'année 2019, s'est ajoutée une autre crise qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la crise sanitaire. Une crise sans précédent dans toute l'humanité. Et donc, nous avons bien des raisons d'être inquiets pour notre avenir. L'avenir n'est plus rose, puisqu'on nous apprend que nous devions vivre avec cette pandémie pour un temps que nous n'arrivons pas encore à déterminer. Regardez ce matin, ce n'est pas comme ça que nous étions avant la pandémie. Ce n'est pas comme ça que nous faisions l'Église avant mars 2020. Et pourtant, nous avons changé d'habitude. Et ça peut faire peur. Ça nous inquiète. L'économie n'est pas au beau fixe, nous dit-on. Nos jeunes adultes qui rentrent sur le marché de l'emploi, on essaie de mettre des mesures pour qu'ils aient du travail. L'économie, dit-on, est en berne. Et nous n'avons pas à nous inquiéter. Et pourtant, Jésus, il dit cette parole dans un contexte où les Juifs auxquels il s'adresse ne sont pas dans un contexte apaisé. Quand Jésus vit son ministère dans cette période de l'histoire humaine, entre l'an 0 et l'an 33, les Juifs auxquels il s'adresse sont sous domination romaine. Ils n'ont pas de liberté. Ils sont un peuple en vassalité du grand empire romain. Ils ont envie de cette liberté. Et en Jésus, ils avaient vu quelqu'un qui était capable de les délivrer, de faire d'eux une nation libre, un peuple indépendant. Et Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. De quoi parle Jésus quand il parle des inquiétudes? Il faut bien comprendre cette parole. L'inquiétude est un sentiment humain. Nous avons le droit d'être inquiets. Est-ce que c'est de cette inquiétude que Jésus parle? Quand on lit bien le texte, il semble que non. Jésus parle de cette inquiétude qu'on appelle l'anxiété, être anxieux, c'est-à-dire être excessivement préoccupé d'une situation sur laquelle on n'a pas d'emprise. C'est une situation sur laquelle, quelles que soient les réflexions que tu fais chez toi, ça ne va pas changer demain. L'anxiété. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas juste un sentiment passager, c'est une situation qui nous fait douter, mais c'est un état d'esprit qui s'impose à nous, dans lequel nous vivons finalement. Nous sommes anxieux, nous sommes inquiets. Nous ne sommes pas sûrs de rien du tout. Et du coup, cela inhibe toute réflexion, toute confiance en Dieu. Il faut bien préciser que cette invitation de Jésus ne nous enlève pas notre capacité humaine à prévoir. Jésus ne dit pas « soyez pas prévoyants ». Ce n'est pas possible puisque, souvenez-vous, et que les proverbes parlent de la fourmi, n'est-ce pas? Il dit que cette fourmi, qu'est-ce qu'elle fait pendant l'été, pendant les beaux jours? Elle emmagasine des choses pour préparer son hivernage, n'est-ce pas? Et la question de la prudence, la question de la prévoyance, Jésus en parle tellement de fois. Donc il faut dissocier prévoir et être inquiet. L'inquiétude, je le rappelle, dont le texte nous parle ici, c'est cette anxiété, cette excessive préoccupation des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise. Jésus n'interdit pas de travailler. Jésus n'interdit pas d'avoir des plans d'épargne. Jésus n'interdit pas de planifier notre avenir. Non. Jésus n'interdit pas que nous puissions planifier l'avenir de nos enfants. Jésus n'interdit pas que devons les indices que la société nous donne, que nous prenons des précautions, des mesures pour prévoir le lendemain. Non. Jésus dit qu'au contraire, c'est ça que je veux faire. Par contre, il dit, si tu es omnibulé, si tu es pris dans cette tourmente et que ta vie tout entière est omnibulée par cette inquiétude du lendemain, c'est un manque de confiance en celui qui sait plus que toi l'avenir. Parce qu'à force d'être excessivement anxieux et inquiet, comment est-ce que tu peux faire confiance en Dieu? Ça touche ta confiance en Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, regardez les oiseaux des cieux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Mais Dieu en prend soin, n'est-ce pas? Et pour rappeler encore ce documentaire d'hier, cette chaîne alimentaire naturelle que Dieu a mis dans le monde, c'est incroyable. Il y a une quantité de poissons qui est conduit par une loi naturelle qui suit le cycle de la lune et qui arrive chaque année au même endroit où ces requins aussi ont rendez-vous. Incroyable. Et les chercheurs, ils ont fait cette étude pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, à la même époque, à la même date, les mêmes bancs de poissons et les mêmes bancs de requins sont là à la même époque. Dieu a réglé la nature comme ça. C'est de ça qu'il parle quand il dit les oiseaux des cieux. Dieu a réglé la nature pour que les oiseaux des cieux, eux-mêmes qui ne sèment ni ne moissonnent, aient de quoi vivre. Même si c'est vrai que l'homme, étant ce qu'il est, détruit même l'habitacle des animaux. Et c'est vrai que quelques alertes qui sont lancées vaut la peine d'être entendues par rapport à la préservation de la nature. Vous savez que dans Genèse chapitre 1 et 2, ce que Dieu dit à Adam, il dit, je te confie la gestion de la terre. Donc, Dieu était un écolo avant les écolos. Dieu dit à Adam, c'est ta ressource, c'est celle-là qui va te faire vivre. Prends-en bien soin, puisque c'est d'elle que tu vas tirer ta subsistance. Je ne parle pas de cette écologie qui fait aujourd'hui débat politique. Nous ne sommes pas en politique. Je parle de la gestion, simplement, des ressources que Dieu nous donne. Dieu dit ici, le texte dit ici, Dieu fait en sorte que les ressources soient là dans la nature et que la nature peut en prendre possession. À plus forte, nous, les humains, les chrétiens, qui valons encore plus que les animaux dans le regard que Dieu a sur nous. Donc Dieu se soucie de nous. Dieu prend soin de nous. Nous valons plus. Et Dieu parle ici, pas simplement de l'humanité en général, mais il parle en particulier de ses disciples, de ceux qui font confiance en Dieu. Dieu prend soin de nous. C'est l'anxiété, cette excessive préoccupation du lendemain dont Jésus parle. Nous sommes invités en tant que chrétiens à faire confiance en Dieu. Il se trouve parfois des situations où tout baigne. Gloire à Dieu, parce que c'est un Dieu qui bénit. Et quand les choses vont bien, ben nous devons bénir Dieu. C'est le cours normal des choses. Si quelqu'un étudie, s'il fait une formation, en principe à la clé, il doit avoir un travail. C'est le cours normal des choses. Si un enfant étudie bien à l'école, il passe les niveaux les uns après les autres jusqu'à ce qu'il arrive au moment où il débouche sur le marché de l'emploi et il a un travail. Et selon le cycle de nous chrétiens, il y a aussi ce besoin sentimental où il rencontre quelqu'un dans sa vie, où il fonde un foyer, il prend soin de sa femme, de son époux, et si Dieu leur fait la grâce d'avoir des enfants, ils en prennent soin et ils préparent l'avenir de leurs enfants. C'est le cycle normal des choses. Si Dieu fait ça, disons, béni sois-tu Seigneur. Il le fait autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Sa loi naturelle fait que, naturellement, ces choses se passent bien, en général, pour tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas. Et encore plus, quand Dieu donne l'intelligence à une société qui fait tout pour que tout le monde ait le minimum, C'est une grâce de Dieu. Sauf que cette société-là, comme la nôtre dit, ah, oh, ça nous montre qu'on n'a pas besoin de Dieu parce que nous-mêmes, on est capable de prendre soin de nous. Regardez toutes les structures sociales qu'on a mises. Regardez toute l'évolution qu'on a faite. Regardez tous les progrès. A-t-on encore besoin de Dieu? Ai-je besoin de prier pour que j'ai un bus? Chaque 5 minutes, il y a un bus. Ai-je besoin de prier pour que le train soit à l'heure? En principe, le train, il est à l'heure. Donc, quand il est en retard d'une minute, ça râle pas possible sur les quais. C'est incroyable, cette société. Mais ce n'est pas des évidences, bien-aimés. Notre société a acquis que c'est des évidences. Et quand la pandémie comme celle-là nous frappe, on se rend bien compte que ce ne sont pas des évidences. Qu'à chaque jour suffit sa peine. Qu'à chaque époque suffit sa peine. Qu'à chaque période, qui de nous savait qu'à la fin de l'année 2019, début 2020, nous serions dans cette situation? Qui le savait? Oui, il y avait des lanceurs d'alerte, mais la dimension que ça a pris, dans un temps fulgurant et exponentiel, ça a déstabilisé toutes les structures. Et pourtant, nous sommes des sociétés civilisées, modernes, avec tout ce qu'on a pour prévoir à l'avenir, n'est-ce pas? Et là, bam, on ne peut plus prévoir. Il faut refaire les calculs. Bref, c'est Dieu en qui nous devons avoir confiance. Quand les choses vont bien, bénissons-le. Mais il se trouve que parfois les choses ne vont pas aussi bien que nous le voudrions. Il se trouve que parfois le déroulement du cours de notre vie ne se déroule pas comme nous l'aurions planifié, comme nous l'aurions voulu, comme les capacités que nous avons nous avaient laissé prévoir que nous serions à tel niveau. C'est de cela que Dieu parle. Quand ces choses arrivent, ne soyons pas inquiets à l'excès. Faisons-lui confiance. Parce que le drame de cette inquiétude, c'est qu'elle nous déconnecte tout doucement de la confiance en Dieu. Elle nous déconnecte tout doucement de continuer à grandir dans le Seigneur. Elle nous déconnecte tout doucement des valeurs que Dieu nous a donné d'acquérir. Elle nous déconnecte tout doucement de l'intimité qu'on a avec Dieu. C'est ça le danger de l'inquiétude. L'inquiétude à l'excès, l'anxiété, la trop grande préoccupation excessive de tout ce que je ne sais pas qui va m'arriver ne me donne pas d'avoir confiance en Dieu. Me donne en ce moment-là de réfléchir au plan B, plan X, plan Z, plan Y et d'aller dans tous les sens pour trouver la solution. Et c'est là que malheureusement, facilement, on peut prendre les mauvaises solutions. C'est là que malheureusement, on peut prendre des solutions qu'on peut regretter. Dieu ne nous invite pas à la passivité. Non, ce n'est pas un Dieu passif, c'est un Dieu qui est dans l'action. C'est pour ça qu'il dit, finalement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, il ne nous demande pas d'être inactif. Il dit au contraire, si tu continues à honorer ton Dieu, si tu continues à marcher selon les valeurs de ton Dieu, si tu continues dans ton domaine professionnel à garder le cap avec les valeurs d'un chrétien, à faire confiance en Dieu, même quand tout semble bloqué, bouché, et que tu continues de te battre avec les valeurs que Dieu t'a données, Dieu prendra soin de la solution pour toi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dieu prendra soin de la solution pour toi. Il te guidera, il te conduira, comme il le fait pour l'oiseau, comme il prend soin de cette fleur, la lys des champs. Le lendemain, aucun de nous n'a une emprise sur le lendemain. Notre société nous aide à prévoir le lendemain, c'est très bien. Et nous faisons des projets pour le lendemain, et c'est très bien. Mais nous savons qu'aucun projet n'a 0% de risque. Tout projet est un projet par essence avec un risque. Risque de réussite, risque de moins réussite, risque d'échec. Mais nous avons acté dans notre société moderne que tout projet doit réussir. Et doit réussir d'un premier coup. C'est ça qui est vrai. Et c'est là qu'est la gloire de Dieu. je ne suis pas sûr que ce soit aussi vrai que ça. Je vous ai, pendant 4 semaines, entretenu sur Dieu qui avait dit à Israël, je te conduirai à Canaan sur une terre prospère. Et pourtant, malgré toute la grâce que Dieu a déployée, vous avez vu toutes les péripéties que ce peuple a eues, de par sa propre faute à lui, pas par la faute de Dieu. Alors que Dieu leur avait donné cette confiance qu'il les conduirait à bon port. N'est-ce pas? Et je me convainc que Dieu, il peut écrire avec une ligne droite, comme disait quelqu'un, et qui est rectiligne, mais il peut écrire avec une ligne droite qui est aussi courbe. C'est-à-dire que, quelquefois avec Dieu, peu importe l'itinéraire, mais il te conduira du point A au point B qu'il t'a dit. Il te conduira là. Peut-être que tu as un itinéraire, toi, dans ta tête. C'est bien de l'avoir. Mais parfois, ton itinéraire n'est pas celui de Dieu. N'est pas celui de Dieu. Vous savez, ça nous arrive quelquefois. On croit connaître un chemin et puis on met le GPS. Et puis le GPS te donne un circuit. Tu te dis, oulala, c'est quoi ce circuit? Et puis tu t'engages dans le chemin que tu connais. Sauf que le GPS, s'il est actualisé, il connaît aussi là où il y a les bouchons. Et puis, bim, tu tombes dans un bouchon. Tu dis, ah, je comprends pourquoi. C'est pour ça qu'il voulait que je passe là, le GPS. C'est pour ça. Mais là, c'est trop tard, tu es dans le bouchon. Tu dois attendre. Il me semble qu'avec Dieu, quelquefois, c'est comme ça. On dit, mais Seigneur, attends. Le chemin, je le connais, c'est là. Qu'est-ce que tu fais? Et parfois, on dit, calme-toi, Seigneur, je vais te montrer, moi, le chemin. Et puis on s'y engage, et puis là, on le prend en pleine face. Et on dit, oulala. Ou parfois, ce n'est pas de notre fait. Dieu laisse faire les circonstances, et ces circonstances sont parfois très difficiles. Très difficiles. Et là, on est inquiet. Parce que on évalue notre vie, on n'a pas de péché qui fait que Dieu nous aurait maudits. On n'a pas demandé à Dieu d'être comme Job, donc on n'a pas demandé une épreuve. Donc du coup, on dit, mais Seigneur, quand même. Et puis quand ça se passe dans un temps qu'on peut supporter, ça va encore. On revient louer Dieu. Ah, Dieu m'a éprouvé, mais il m'a en sorti. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand ça dure, on dit, waouh. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, comment je vais m'en sortir? Seigneur, montre-moi. L'inquiétude, elle excuse parfois, donc comprenez bien l'inquiétude, l'anxiété, la trop grande préoccupation, c'est celle qui nous fait rester dans les choses du monde et qui ne nous permet pas de nous élever vers la confiance en Dieu. Et Jésus attire notre attention sur cette question. Il est important de voir la différence entre la prévoyance, comme je le disais tout à l'heure, et l'inquiétude. Jésus ne nous dit pas de ne pas être prévoyant. Il ne nous dit pas de ne pas faire de projet. Il dit, si tu fais un projet, et si ça traite, ou s'il y a des obstacles, ne sois pas inquiet à l'excès. Que ton inquiétude naissante, tu la transformes en prière, en confiance en Dieu. Que tu lui demandes des forces pour tenir bon. Parce que si tu le fais avec les valeurs que Dieu te donne, garde ce cap. Il y a cette jeune fille qui a beaucoup, j'utilise un mot commun, qui a beaucoup galéré pour ses études. Et qui était en face d'un de ses professeurs de thèse qui aurait pu l'aider à, professeur de mémoire du moins, qui aurait pu l'aider à bien valider son mémoire parce que derrière il y avait un travail qui l'attendait. Sauf que le monsieur il a traîné sur ce mémoire, mais la fille ne voyait pas les raisons. Au bout du bout, elle a compris qu'en fait ce monsieur aurait souhaité avoir une aventure sentimentale avec elle. Alors que c'était un monsieur marié et qu'elle était une chrétienne et qu'elle aspirait un jour à voir son mari et vivre une vie heureuse. Et quand elle a compris ça, elle était toute triste. Si j'étais dans les groupes publics universitaires, elle est venue me voir. Devant ce genre de situation, tu n'as pas de réponse. Elle était tellement désemparée. Elle a dit, si le Seigneur ne fait rien pour me sortir de là, Serge, je ne suis pas sûr que je vais résister. Qu'est-ce que tu peux dire à une jeune femme comme ça, qui s'est gardée pure pour Dieu et qui avance dans ses études et qui trouve un obstacle comme ça et un monsieur de ce type-là devant elle? J'ai dit, ma soeur, on va prier, tu sais. Je n'ai pas d'autre solution pour toi que de dire, résiste, tiens bon, prions Dieu. Elle a formulé une prière qui était à l'époque très enfantine. Elle a dit, c'est parce qu'il me voit comme une jeune fille bien faite qu'il me désire. Je prie que Dieu, à chaque fois qu'il me voie comme un garçon. J'ai dit, oulala, j'ai dit, oulala. J'ai dit, oulala. Mais ça l'embêtait bien, cette situation-là. Et puis elle a résisté. Ça n'a pas été facile. Mais au bout du bout, l'académie s'y est mêlée. Et l'académie lui a donné raison et a forcé le professeur à faire son travail. Aujourd'hui, cette jeune fille vit aux États-Unis. Elle est épanouie. Elle a gardé la foi. Mais ce n'était pas évident à ce moment-là de résister. Et des histoires comme ça, je pense que vous qui avez de l'expérience, vous en avez pas mal. Où il y a eu des choses, mais il fallait rester fidèle à Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses te seront données par-dessus tout. Amen. Ce matin, voilà l'exhortation que Dieu nous donne. Que nous puissions garder nos regards sur Jésus. Que sa parole, qui nous donne des valeurs intrinsèques et qui nous donne d'être parfois différents dans des situations particulières, alors que tout le monde fait ça, et ça marche, et nous on ne veut pas faire ça, et donc peut-être ça ne va pas marcher du coup, que nous ne serons pas inquiets à l'excès, que ce... que cette ambiguïté, que cette situation, cette difficulté, cet obstacle, parce que tu es chrétien, parce que tu es chrétienne, et que tu ne peux pas toujours faire comme les autres, que ce ne soit pas un piège pour tomber dans l'anxiété, dans l'inquiétude et de perdre confiance que Dieu est capable de te conduire à bon port. C'est ce que Jésus nous dit. C'est pour ça que je lis avec vous le psaume 119. Ta loi est la vérité. Ce que Dieu dit s'accomplit. C'est lui qui dit, ne soyez pas inquiets, je prends soin de vous. Il n'a pas dit comment, mais il dit, je vais le faire. Il a dit à Israël, je te conduis à Cana. Il n'a pas dit que tout serait nickel. Il dit, ce qui est sûr, je te conduirai sur une terre où tu ne seras plus esclave, où tes enfants auront un avenir, où toi tu auras un avenir. Comment ça va se faire? Ça va se faire avec les lois humaines. Donc tu vas traverser le désert, mais je serai avec toi. Tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir des adversités, mais je serai avec toi. Des fois, tout va couler comme de source, ça sera ma bénédiction aussi. Mais à chaque étape, ma grâce te suffit. C'est ça la fin de ce texte. À chaque jour suffit sa peine. À chaque étape, la grâce de Dieu sera suffisante. Et je vous parle par expérience. À des périodes de la vie d'un homme où c'est compliqué. Où c'est compliqué. Où les solutions ne sont pas évidentes. Où tu n'as même pas de solution. Où toutes les portes sont fermées. Mais c'est là que ta foi te dit, la porte du ciel, elle est ouverte. Elle reste grande ouverte. Et Dieu dit, fais-moi confiance. Et tu as envie de dire oui, Seigneur. Donc c'est demain matin que tu vas le faire. Et tu n'entends pas de réponse. Et tu te lèves le lendemain, tu es encore dans la même galère. Tu te dis, ok, bon, il faut attendre. Mais c'est ta prière. C'est ta confiance à ton Dieu. C'est la méditation de la parole. C'est ton service dans l'église de Dieu. C'est cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Reste attaché à ton Dieu. Garde ses valeurs. Prie ton Dieu, médite sa parole, engage-toi pour lui dans son église. Continue d'être actif dans tes études, continue d'être actif dans ton milieu professionnel, continue de chercher même si tu n'as pas encore d'emploi. Lui a chaque circonstance, sa grâce sera suffisante. Amen. Amen. Terminons avec la lecture de Lamentations 3, 21 à 23. Lamentations, vous savez déjà, le titre dit beaucoup. Hein. Voilà. Donc c'est un peuple qui se lamente et c'est le prophète Jérémie qui se lamente avec le peuple parce que le peuple en ce moment-là est dans une situation trop difficile. Où Jérémie a dit plusieurs fois, mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous délivrer? Jusqu'à quand tu vas nous sortir de cette situation? Oui, on sait qu'on s'est mis dans cette galère, mais tu es le Dieu qui est bon aussi. Jusqu'à quand? Et puis Jérémie formule cette conviction que je voudrais nous communiquer ce matin. Et si tout va bien, que cette conviction soit encore un plus pour toi. Si les choses vont très mal, que cette conviction te soit comme un ancre, comme une voile qui te pousse et qui te conduise. Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor, voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Tes compassions ne sont pas épuisées. Ton amour n'est pas à son terme. Chaque matin, elle se renouvelle. Fais confiance à ton Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et il prendra soin de chaque situation, de chaque étape de ta vie. Prions. Te bénissons. Nous te louons. Seigneur, je te bénis pour toutes les situations où tout va bien. Parce que c'est ta bénédiction aussi. Tu bénis tes enfants et merci pour les familles, pour nos bien-aimés frères et sœurs, où les choses vont bien. Et nous voulons dire Alléluia. Et nous voulons te bénir pour ces bien-aimés-là. Parce que notre amour fait que nous sommes heureux pour ceux dont la bénédiction est là, est présente. Tu dis aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous voulons te porter ce matin, peut-être parmi nous, nos frères, nos sœurs, nos familles, qui, elles, traversent des moments compliqués, difficiles, des situations étriquées, sans solution concrète, depuis plusieurs mois, voire peut-être depuis plusieurs années. Seigneur, tu dis de ne pas nous inquiéter à l'excès, de te faire confiance. Regarde. Les familles dont nous parlons, c'est celles qui sont engagées pour toi, qui gardent les valeurs chrétiennes, qui marchent avec toi, qui te servent. Fais grâce. Montre-leur que ta parole est la vérité. Tu l'as dit dans le psaume 119, ta parole est la vérité. Celui qui se place sa confiance en toi n'est jamais déçu. Montre, Seigneur. C'est ces miracles que nous voulons voir. Les miracles où toi, tu es capable, quelle que soit la situation, d'apporter la solution, ta solution, notre Dieu. Te bénissons. Et nous tenons en nom de Jésus-Christ. Amen.